Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e magazine d'Instant Sport, votre émission d'actualité sportive qui décrypte les résultats lausériens, nationaux et internationaux. Alors dans ce studio, nos trois chroniqueurs avec tout d'abord le journaliste sportif du quotidien Midi Libre et l'entraîneur de l'équipe féminine de basket Luc Crespon, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors une bonne nouvelle Luc, ton équipe n'a pas perdu ce week-end.
Non, elle a pas joué.
Mais c'est déjà ça. Laurent Julien, notre spécialiste eau de vie, troisième mi-temps et handball, salut.
Salut, bonjour à tous.
Alors, un match ce week-end, toi, avec l'AFL 3
Non, pas de match. Les conditions météo n'étaient pas assez bonnes pour pouvoir sortir des mecs de 40 balais sur un terrain de foot.
Ils ne pouvaient pas mettre de pastis, de glaçons dans les pastis.
Ah, mais c'est fou, il n'y a personne qui a joué. Allez, journaliste sportif à la Lozère Nouvelle, c'est le Raymond Poulidor du badminton, Patrick Biancone, bonjour.
Bon, tu as vu que j'en ai pas parlé la semaine dernière, donc tu as découvert tout ça. Je vois que tu lis bien la Lausanne Nouvelle.
Voilà, c'est bien.
Tu es un lecteur assidu, des SMS
à tout le monde.
Voilà.
pour donner, voilà.
Je sais.
J'explique à nos auditeurs. Donc oui, j'ai ouvert ces merveilleuses pages sport de la Lausanne Nouvelle. Tournoi de badminton, tableau DHD, finaliste en double, Patrick Biancone. Encore une défaite en finale. Alors ça va pas du tout, Patrick. On peut pas toujours compter sur Laurent pour nous amener des victoires. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non mais c'est vrai, encore une défaite en finale, puisque c'est vrai, je m'étais incliné aussi en finale du tournoi de Mende il y a quelques mois, mais quand même en progression par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, bon certes j'étais champion de Lozère, mais en non classé, et cette année il n'y avait pas assez de non classés inscrits, donc les non classés ont été reversés en série D, donc c'est-à-dire en série classée, et donc une défaite en finale, c'est quand même c'est encourageant, et surtout bon, je tiens à féliciter nos vainqueurs, et en particulier Eric Goss, qui est vraiment un type extraordinaire, et c'est lui qui a inventé le badminton ici en Lausanne. Il a tout lancé, il a créé le club, et après, maintenant, ça s'est essaimé sur tout le département, donc j'en profite pour lui rendre hommage, et donc la défaite est un peu atténuée par le fait de se faire battre par un ami, quoi. Voilà.
Si quelqu'un a les cordes, un bon préparateur mental pour Patrick.
C'est vrai, il le faudra, mais bon, ça, on va voir. J'ai encore des progrès à faire. Je peux encore progresser. J'ai de la marge, comme on dit. Donc voilà, rendez-vous l'année prochaine.
Alors du mental, il en sera peut-être question avec notre invité du jour. Après deux victoires consécutives, une défaite d'un petit but. Pascal Daudet est avec nous, l'entraîneur des garçons du handball du MGC. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour à tous vos auditeurs et notamment du monde sportif.
Et merci d'être présent avec nous. Alors exceptionnellement, on va commencer avec vous, Pascal Daudet, vu que vous avez un rendez-vous après à 13h, on pourra vous laisser partir à vos obligations professionnelles. Donc en National 3, tout d'abord, les filles n'ont pas joué, Laurent.
Hein, non, c'était un week-end de repos pour les filles et qui reprennent le week-end prochain la phase haute.
D'accord, alors on reviendra quand même, on dirait un petit mot sur les filles, même si elles n'ont pas joué. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Non?
Non, rien, c'est bon, on peut continuer.
D'accord, très bien. Alors, National 3, le MGC perd d'un petit but contre Villeurbanne, 19-20. Pascal Daudet, ce sont les pires défaites, j'imagine, celles d'un but.
Oui, et puis ce qui me gêne, c'est qu'elles ressemblent à toutes les défaites de la première partie, où on s'est incliné chaque fois de 1, 2 et 3 buts. Donc... Il a fallu tout remettre en place depuis j'ai repris l'équipe à partir du fin décembre. C'était mon petit cadeau de Noël. Donc on a reconstruit quelque chose avec ce groupe qui est plein de qualités, mais qui restait en dedans et qui voulait pas s'exprimer pour X raisons. Donc mon premier chantier, ça a été de reconstruire une défense homogène, solide. Et vous avez pu voir que sur les trois derniers matchs, on encaisse que 18, 21 et 20 buts, ce qui, à ce niveau de compétition, est très, 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 très bien. Normalement, ça doit enchaîner sur une victoire, puisque toutes les équipes marquent généralement plus de 30 buts dans ce niveau-là. Donc voilà, le deuxième chantier, ça va être, être un peu plus performant au niveau de l'attaque.
Ça va être le chantier, Luc.
C'est quoi qui a pêché là en attaque? C'est un petit problème de confiance
Voilà, tout à fait. Le groupe est relativement jeune, malgré qu'ils se connaissent depuis 2 ou 3 ans. On a quand même des joueurs de 18 ans qui ont intégré le groupe 1 et qui arrivent même à être titulaires. Et ce manque de maturité face à la pression de la compétition, la pression de résultats, font qu'ils sont encore en échec au tir sur des situations plutôt favorables.
Voilà, il faut le rappeler, Patrick, la Nationale 3, c'est pas rien comme division.
Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le championnat de l'année dernière. Ça, c'est une évidence aussi. Et bon, voilà, on a senti quand même, depuis le début de saison, une équipe. Bon, quand on a reçu un joueur, une émission précédente, il y a maintenant plusieurs semaines, et on l'avait interrogé, et c'est vrai qu'avec franchise, il avait quand même laissé entendre, bon, voilà, qu'il n'y avait plus la même solidarité, plus la même envie, plus la même envie de se dépasser, de se battre tous ensemble, par rapport à justement à l'année dernière qui avait été une année fabuleuse à tous les niveaux, aussi bien en coupe qu'en championnat. Et donc bon, on sentait que ça partait quand même sur une mauvaise pente, et les résultats le confirmaient. Et donc voilà, après tu t'es interrogé toi, Ludo, du fameux choc psychologique, est-ce que ça existe ou pas quand on change de coach. Bon, là quand même il faut quand même voir, voilà, il y a une dynamique nouvelle, on le sent, on sent que les joueurs ont retrouvé justement l'envie de se battre. On sait que le handball, il y a une dimension quand même physique, voilà, on sait, bon, il suffit de regarder les matchs professionnels, mais à tous les niveaux aussi. Il y a cette dimension, voilà, où il faut être solide en défense et puis après se jeter en attaque pour essayer de marquer. C'est pas évident. C'est un sport vraiment particulier. Et donc on sent quand même là que le MGC repart sur de bonnes bases. Et bon, alors Pascal va pouvoir nous le dire, parce qu'on, oui, se pose la question, combien de descentes? Alors 2, 3, ça dépend de quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Donc officiellement, on part sur 3 descentes.
D'accord.
Donc voilà, on est un petit peu loin du premier non relégable, même si comptablement c'est encore possible, tout est possible. Il nous reste 8 matchs, 5 à la maison, 3 à l'extérieur.
Ouais.
Le couteau entre les dents jusqu'à la fin. De toute façon, le MGC va se battre. C'est ce que j'ai voulu inculquer à mon groupe, c'est cette notion de combat, de relever la tête, de relever des défis. Et déjà, l'investissement, la participation à l'entraînement, on commence à voir des gens qui sont intéressés par le projet. Alors évidemment, on est tous focalisés sur ce maintien, ça nous met une pression un peu terrible, ouais, effectivement. Mais on va prendre match après match, on va essayer de rattraper déjà notre adversaire direct qui est à 2 points. Et puis petit à petit, on va gratter jusqu'au bout, on va se battre.
Voilà, parce qu'il faut préciser, vous avez perdu contre Villeurbanne, qui est actuellement deuxième du classement. Vous avez perdu d'un but. Donc,
tout à fait.
Il n'y a pas à rougir de cette défaite.
Cette poule est tellement homogène que je suis incapable aujourd'hui de vous dire qui va monter, même si Valence, à mon avis, a une petite option. Mais les 4 premiers, mathématiquement, peuvent monter. Et vous voyez qu'encore, les équipes qui sont devant nous, c'est extrêmement serré, tout le monde peut battre tout le monde, on est capable d'aller chercher des exploits à l'extérieur. Ça, j'ai tout à fait confiance au groupe.
Voilà, alors le fil du match un peu, 5 à 2 à la 10e pour les Mondois, 6 ouais, à 9 à la 18e pour Villeurbanne, mi-temps le MGC qui mène de 2 buts, 13
voilà,
à 11
voilà.
19-18 à la 55e pour voilà, le MGC, et donc ouais, là apparemment dans les 5 dernières minutes, une fin de rencontre très tendue, la ouais, seule équipe qui va arriver à marquer un but dans ces 5 dernières minutes,
voilà,
c'est Villeurbanne, c'est voilà, fou ce scénario.
Tout à fait. On est tombé sur une équipe qui était aussi organisée défensivement que nous, qui nous a posé énormément de problèmes, comme on leur a posé à eux. Et donc c'était un match défensif, difficile à arbitrer. On a eu des supériorités numériques supérieures à eux en nombre de 2 minutes. Et on n'a pas su les exploiter, tous nos surnombres. Fébrile en attaque et, comme disait notre ami, le gardien de but adverse dans les 10 dernières minutes nous a fait une omeyère, quoi. Il a sorti les ballons importants et chauds qui nous auraient permis de passer devant et de gagner ce match.
Voilà, Laurent, justement, toi, tu étais au match, ton
voilà,
ressenti sur ce match.
Pour continuer un peu l'explication, ce match, en fait, il était hyper serré. Donc, en fait, une équipe adverse très très jeune C'est une équipe réserve de National 1, voilà. Avec des jeunes qui en veulent. Et
centre de formation.
Et puis, la différence, en fait, que j'ai pu voir, c'est surtout dans la concentration. L'équipe adverse a joué simplement, finalement, n'a pas fait de chichi, n'a pas perdu de ballon bête. Quand on repense à la fin du match, bien sûr, c'est toujours trop tard qu'on perde un but, et que on repense à ces 2-3 ballons qui finissent en touche, qui finissent sur un pied, sur le coup, on minimise, on dit c'est pas trop grave, mais à la fin, ça fait râler. Par contre, dans le jeu, on n'a pas vu qu'il y avait 10 équipes d'écart entre Villeurbanne et le MGC. Donc, ce qui est très encourageant parce que quand on va voir un match comme ça, on se dit c'est mission quasi impossible, mais ça l'a pas été. Et un gardien adverse qui a sorti les arrêts qu'il fallait. Quelques attaques un petit peu, on en a parlé en off avec Pascal déjà avant. C'est la confiance, quoi. La confiance. J'ai vu quelques séances d'entraînement où il y a des tirs qui partent à 10-11 mètres, ça part à des boulets de canon. Et là, sur ce match, un peu de retenue, on fait pas le bon choix, les défenses se replacent. Voilà. Et puis c'est trop tard, quoi. C'est ce qui fait un peu râler en fin de match, quoi.
Pour continuer un peu sur ce que tu dis, donc dans mon projet sportif que j'avais mis en place dès début janvier, je leur avais dit on part sur un gros bloc défensif. Et c'est pour ça que j'ai réinvesti Maxime Joubert en défenseur central, chef de la défense. J'ai refait appel à Dragoche Lazare qui avait un petit peu s'était mis un peu sur le côté et a repris pour redonner un peu cette dynamique en défense. Et sur ce projet défensif, on est arrivé à trouver des équilibres. On arrive à produire un jeu qui perturbe pratiquement tous les adversaires. Le problème, c'est que on pêche parce que on n'enchaîne pas derrière ces bonnes défenses, des montées de balles, des jeux rapides. Qui nous permettrait de mettre des buts dits faciles en contre-attaque, et pour l'instant on pêche parce qu'il y a cette fébrilité ou il y a ces pertes de balles qu'on a pu voir samedi qui nous ont coûté très 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 cher.
Luc, il reste 8 matchs, hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut faire 8 matchs de coupe et 8 matchs commando,
8 finales. Mais je suis il faut qu'on fasse tomber un peu la pression et qu'on y aille au coup par coup, match par match, pour essayer de retrouver cette sérénité. Comme vous avez pu voir contre Bourgoin, où ça a été un match pratiquement exceptionnel du début à la fin. Donc, les garçons ont pris conscience qu'ils en sont capables. À partir de là, on va essayer de travailler sur cet aspect mental pour essayer vraiment de se faire confiance les uns les autres et ressouder le groupe pour arriver à nos fins.
Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on n'y croyait plus, quoi, ou on n'y croyait pas plus beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, voilà, on y croit quand même, on y croit, voilà, un petit peu, bon. Comme tu le dis, bon, ça va être compliqué, trois descentes, il y a un petit écart quand même. Mais bon, 8 matchs, surtout 5 à domicile, quand on connaît quand même un sport de salle, l'importance de jouer dans ton gymnase, c'est quand même, c'est un positif. Ouais. Bon, après, tu perds contre Villeurbanne, Villeurbanne, c'est quand même pas, c'est un club historique de ce sport, hein. Ils ont connu le monde professionnel, ils étaient en D2 il y a pas si longtemps. C'est la périphérie lyonnaise, c'est un tout autre contexte économique au niveau de la densité de population. On peut pas comparer avec Mende aussi. Hein.
Et c'est là où on voit la petite différence, c'est que ces garçons s'entraînent tous les jours et techniquement ils ont le petit truc qu'on n'a pas tout à fait, et donc ils arrivent à perdre beaucoup moins de ballons que nous. Et tu l'as dit, ils ont joué simplement mais proprement, sans se prendre la tête. Ils ont réussi.
C'est ce que moi je constate depuis le début de la saison où le MGC a gagné déjà en ça, dans moins de fioritures, des passes aveugles, là, des fois, ça sert à rien. Là,
ça fluidifie le jeu.
Beaucoup plus fluide, à être plus rapide, et c'est d'autant plus intéressant. Après, moi, j'ai vu en face.
Il faut s'enlever la pression, quoi.
C'est là. Il faudrait
le ballon passe un peu plus loin après, quand tu es dans la position et que tu sais que tu joues ton maintien, des fois, sur certains choix, certains tirs, si tu hésites, il faut pas hésiter. Hein. C'est vrai que ça se joue à la seconde
après,
de près.
Défensivement, c'est vrai que là, il y a aucun problème. Super gardien, des défenseurs qui ont l'agnac, qui font des fautes quand il faut. Après,
Quand tu arrives à prendre que 19 ou 20 buts,
voilà,
ça veut dire que la défense, elle est quand même au niveau.
Voilà, cette deuxième phase de mon chantier, ça va être ça, ça organiser la montée de balle pour qu'ils prennent confiance. Alors, la montée de balle, les montées de balle directes, par les relances de gardien, ils en sont capables, que ce soit Dragoche, Olivier Cavalier, qui est pour, malheureusement absent pour le sang, mais il va bientôt rattaquer. Donc, on a des lapins, on a des gens qui courent très très vite. Après, il va falloir coordonner ces relances pour que ça porte ses fruits et qu'on ait des buts plus faciles.
Sur le groupe, il y a pas mal de jeunes. Il y a des jeunes que tu avais eus, toi, notamment quand tu t'occupais des jeunes.
Tout à fait. Donc, il y a certains jeunes qui m'ont connu en moins de 18 nationaux, où on a fait des phases finales, des finalités. Donc, ils connaissent un peu mon fonctionnement. Donc, j'ai voulu reprendre le groupe en leur aérant un peu l'esprit, la tête. Donc je suis dans une phase où je suis dans une certaine tolérance. Donc même aux entraînements, ils ont voulu reprendre un peu les choses en main, se libérer, pas avoir cette pression énorme. Donc je suis dans cette phase où je jauge un peu le groupe, je reconstruis petit à petit pour leur donner cette confiance. Il est à un moment donné...
On n'a pas trop le temps pour faire ça.
Voilà, j'ai pas le temps. On est en recherche de résultats. De toute façon, le MGC aura les dents dans le parquet jusqu'à la fin mai. Et on ne lâchera rien. On fera les comptes après. Ça, c'était le dicton d'un des joueurs après le match de Villeurbanne. Vous voyez, dans l'état d'esprit, on s'est tous retrouvés. On a bu une bière ensemble, malgré la défaite. Et on a dit, mais c'est pas fini, on ne lâche rien jusqu'au bout. Donc, ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire.
Alors, au niveau des résultats, Meilan, hein, qui est juste devant vous, a perdu 27-25 à Annecy. Fontaine a fait encore un match nul à Voiron, 24 partout.
Donc, vous voyez la densité du groupe. Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, on va rappeler en partant de la fin. Dernier, Courpierre, 18 points. 11e, Mende, 21 points. Meilan, qui a 2 points de Mende à 23. Voilà. Donc, on peut les passer. Et 9e, Fontaine, qui a 26 points. Et après, il y a Cournon et Bourgoin à 28 points. Donc déjà,
d'ailleurs,
il faut passer devant Meilan.
Je te coupe, mais le prochain match, c'est d'ailleurs, tu reçois Cournon.
On donc, reçoit Cournon.
Tu vois, tu imagines l'importance de ce match quand tu lis le classement.
Meilan et Fontaine, c'est à domicile ou c'est...
Alors, un à l'extérieur, un à domicile.
D'accord.
Voilà, Fontaine à domicile, Meilan à l'extérieur. Donc, mais on est capable d'aller aussi bien gagner à l'extérieur que chez nous. Donc, mais tout va se jouer, ça va être très très serré. Il n'y a aucune équipe qui gagne avec 10 buts d'écart. Personne ne fait le trou, tout le monde se bat, ça va être jusqu'à la fin un combat.
Et est-ce que tu as hésité longtemps justement pour reprendre cette équipe? On sait que c'est pas évident, bon, parce qu'il y a quand même un entraîneur en place, bon, voilà, et donc on passe la main, ça peut créer des tensions, ça peut bon voilà entre avec les dirigeants tout ça. Est-ce que bon, c'est une décision qui est pas facile à prendre aussi, hein.
Voilà, sans relever des secrets internes au club, bon. Effectivement, dès le mois d'août, j'avais sollicité le bureau directeur, les présidents, pour essayer de me réinvestir dans le club. Et effectivement, j'avais postulé pour l'équipe 1. Ça n'a pas pu se faire dès le mois d'août, parce que c'était un peu tard, tout était mis en place. Et ça n'a pas été facile de prendre une décision à Noël. On est dans un milieu amateur.
Oui, mission.
Avec un garçon qui a fait du bon boulot, qui a fait monter l'équipe, qui connaît le handball. Donc c'était pas une décision facile à faire, donc peut-être qu'on était arrivé à un point où ça passait plus avec le groupe, lui avec le groupe, les joueurs avec lui. Donc il fallait de toute façon tenter quelque chose. Effectivement, quand ils m'ont sollicité à Noël, j'ai pas hésité longtemps. Je savais que le challenge était très compliqué, mais très intéressant. Je vais essayer de partir sur un projet de 3 ans, voilà, pour essayer de construire, stabiliser ce groupe en N3. Et mais si on repart en pré-national l'année prochaine, on repart en pré-national, mais la dynamique sera pas cassée parce que on a des gens autour au bureau, des présidents qui sont investis, qui veulent faire du handball à Mende et en Lozère, un club phare de la ville, quoi. Donc structurellement, on est quand même bien armé.
Et pour compléter ce que tu dis, il y a l'équipe moins de 18 garçons qui est première de son championnat.
Tout à fait.
Donc ce qui est encourageant pour ton projet des 2-3 prochaines années.
Tout à fait.
Il y a des garçons qui frapperont à la porte certainement du groupe et qui vont booster positivement l'énergie du
donc,
club.
Donc dans cette dynamique, j'ai imposé aux dernières années moins de 18 de venir s'entraîner tous les mardis avec les seniors. Un, pour qu'ils prennent du rapport de force. Deux, pour qu'eux, ils amènent de la fraîcheur, leur vivacité, leur vitesse. Donc, on arrive à voir.
Trois, c'est pour ramasser les ballons à la fin d'entraînement.
Non, c'est pas seulement des partenaires d'entraînement. ils sont là vraiment pour progresser. Et d'ailleurs, on peut voir que les résultats des moins 18 sur cette deuxième phase sont dans une phase extrêmement positive, dynamique. Le partenariat avec le Centre Omnisports Lozère, le col, les structures dans le lycée, notamment de Notre-Dame, porte ses fruits. Ça veut dire que ces jeunes-là arrivent à s'entraîner 5 fois par semaine.
C'est une des forces majeures du MGC depuis longtemps, c'est sa formation justement.
Tout à fait. De toute façon, il faut qu'on bâtisse sur ça, sur ce projet de formation. Mon seul regret, c'est qu'au niveau de ce Centre Omnisports Lozère, il manque un peu quelques mandois, quelques lozériens qui viennent continuer à progresser et acquérir cette dynamique de compétition de haut niveau, quoi.
Avant de vous laisser partir, peut-être un mot sur les féminines. Vous, en tant qu'entraîneur des garçons, quelle vision vous avez sur ce beau championnat que sont en train d'effectuer les féminines?
Ouais, tout à fait, avec un groupe restreint. Balou a du mérite à continuer avec un petit groupe restreint, mais très très solidaire. Et les résultats parlent pour elles. Elles ont fait une première phase très très intéressante. Et elles attaquent une deuxième phase avec un championnat qui...
Voilà, un peu faussé.
Qui est un peu faussé, parce que MUC1, MUC2, à mon avis, ça
ah oui,
va,
c'est plus facile, hein.
Ça va s'arranger, et voilà. Donc, même s'ils gagnent tout à la sortie, et on va risquer d'être frustrés cette année, mais ce n'est que partie remise.
Oui, c'est un beau championnat, c'est une belle saison pour
faire plaisir, je pense, à ce
voilà.
Niveau.
Tout à fait.
Exactement.
C'est de gagner et de branler à tout le monde.
Très. Ouais, c'est vrai. Sinon, ouais. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Pascal Daudet.
C'est moi qui vous remercie. Merci de votre soutien et de faire parler un peu du MGC Handball. Et je voudrais rajouter une dernière chose. Ça concerne évidemment le handball, mais vous savez que la maison Marty va être démolie. Et donc, nous, c'est notre siège social. Avec le foot, donc le foot avec les travaux qu'il y a eu derrière les tribunes du stade,
oui,
pour avoir des locaux tout neufs et très fonctionnels. Et donc nous, on va se retrouver un petit peu, petit peu sans rien. Et donc ça fait, sans livrer un secret de polichinelle, ça fait 2 ans, peut-être plus, qu'on demande une salle qui serait très très fonctionnelle pour nous, et vous la connaissez tous. Elle est à la Vernède, elle est sur place. Il y a pas grand chose à faire pour qu'on puisse avoir notre clubhouse, nos bureaux, nos locaux et tout sur place. Et voilà, donc
tu parles de quelle salle à la Vernède?
C'est une salle qui est juste au-dessus des tribunes, au même niveau que les tribunes.
D'accord.
Il y a juste à ouvrir, mettre un plexiglas, monter 2 cloisons et on aurait notre local sur place. Et vous savez pourquoi
Patrick qui est manuel dans l'équipe.
Quand je dis ça, donc, c'est pas pour virer le club de Capoeira ou les utilisateurs, parce que avec les nouvelles salles qui sont construites, je pense qu'on peut jouer gagnant-gagnant. Et vous savez, quand après le match, qu'on offre un coup aux équipes adverses, vous savez où on se met? Sous les tribunes, dans le couloir. Les équipes qui sont en train de s'échauffer, on reçoit un ballon sur deux. Sur les verres, sur la figure, notamment, on a eu des gens qui ont eu des lunettes cassées.
Ouais, en fait, c'est vrai.
C'est pénible, les arbitres nous virent, on n'a pas de point d'accueil pour les équipes, c'est très très compliqué pour nous.
Patrick?
Non, mais c'est vrai que le moment de lancer cet appel est opportun, parce que dans pas longtemps, il y a des élections, bon, même si ce n'est pas des élections municipales, c'est des élections départementales et cantonales, il y a quand même 2 cantons sur Mande, avec quand même pas mal d'élus municipaux qui sont candidats à ces départementales, donc tu fais bien de lancer cet appel à ce moment-là. Et mais après au niveau des salles, c'est vrai que c'est quand même un problème insoluble. Je vais raconter quand même une petite anecdote. Au niveau du lycée technique, au-dessus, il y a une salle de danse. Et donc c'est là où le volleyball fait son pot aussi pour les équipes à la fin des matchs.
D'accord.
Et donc en début d'année, ils ont réussi à obtenir de la mairie vraiment dans un petit coin d'installer une structure qui fait un peu bar où ils peuvent mettre leur tireuse, etc. Et donc, c'est vrai que ça réduit un poil, il faut quand même le reconnaître, l'espace de danse. Eh ben, je peux te dire que ça a fait un tollé général au niveau des utilisateurs de cet espace de danse, avec des pétitions qui sont remontées jusqu'à la mairie. Alors bon courage pour récupérer la salle de la mairie.
Je veux pas rentrer dans la polémique, mais je profite d'avoir ce temps d'antenne pour lancer un petit appel.
Vous avez bien raison, mais c'est vrai que c'est compliqué.
Il y a un vrai débat pour les salles, pour les clubs. Les clubs, je vois, avec le basket, nous, bon, on a récupéré Notre-Dame Saint-Privat cette année, c'est pas évident non plus, parce qu'on n'est pas chez nous non plus. Enfin,
tout
voilà.
À fait, c'est compliqué pour tout le monde.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de clubs pour qui ça devient problématique. Je sais que le badminton a aussi des soucis parce que bah, des fois, il faut faire la queue pour avoir un terrain. Enfin bref.
Alors, du fait que le basket joue dans un gymnase privé, vous avez une location? Comment ça se passe?
Oui, on paye. De toute façon, on payait déjà le gymnase du lycée Chaptal,
ouais.
On paye aussi celui de Saint-Privat, plus cher. D'accord.
Oui. Ça s'appelle la quête, Laurent. Ça s'appelle la quête.
Non, on paye plus cher. Bon, après, il y a des négociations avec la communauté de communes qui reverse une partie, enfin, qui paye une partie.
D'accord,
de la
location. Okay, quand on a un petit budget, c'est pas évident, quoi.
Bah, quand, si tu veux, c'est pour
allez,
dévoiler,
on enchaîne.
Pour dévoiler vite fait.
C'est pas le débat du jour, les salles.
Pour vite fait,
on a plein de résultats
secrets,
sportifs.
On a en gros 4 000 euros de subventions. Qui ont été votés, qui vont partir là tout de suite directement pour payer les arbitres. Donc voilà, c'est-à-dire que pour finir la saison, bah, je pense qu'on va devoir vendre des habits.
Vous payez des arbitres et oui. vous gagnez pas un match, c'est quoi c'est...
Non, on paye.
Non, mais légalement.
Ils n'ont pas compris.
On les paye légalement.
Allez, Pascal Daudet, merci beaucoup. On vous laisse quitter le studio.
Je vous remercie de m'avoir donné ce temps d'antenne.
Il est 1h-3 et vous avez rendez-vous très prochainement, donc n'hésitez pas à y aller parce que la coupure musicale sera loin vu qu'on a encore
et avec plaisir quand on se revoit quand on aura assuré le maintien.
Voilà, exactement.
Allez, allez, on se bat tous ensemble. Merci, voilà. Beaucoup.
On viendra boire un coup au clubhouse.
Je vous remercie.
Voilà.
Merci. Ou dans le couloir.
Ou dans le couloir. Allez, on poursuit avec le rugby, le RCML qui perd à domicile face à Pratpic Saint-Loup 10-23. Alors Patrick, tu étais là au stade pour voir le RCML contre Pratpic Saint-Loup. Alors je resitue un peu. Un essai, une pénalité pour Mende contre deux essais, deux transformations, trois pénalités pour le club héroleté. C'était un match qu'on pouvait qualifier de capital. Patrick, les carottes sont cuites.
Oui, il reste 4 matchs, donc il y a un club, puisqu'ils étaient 10, ils sont plus que 9, puisqu'il y a un club qui a pas commencé la saison, donc ça fait une descente déjà de régler, mais bon, ça va être compliqué pour le RCML de se sauver sportivement. On sait que l'année dernière, ils ont été repêchés parce qu'ils auraient dû descendre. Donc peut-être que ça va se reproduire cette année, d'être repêché. Bon, sur le match, bon, moi j'ai été vraiment impressionné. J'ai suivi les 80 minutes le long de la touche et j'ai été impressionné par cette dimension physique. Il y a des bruits sur des chocs. C'est vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces gars qui jouent dans un championnat honneur. Donc vraiment niveau amateur, s'il en est. Je peux te dire qu'il y en a certains, je me demande comment ils ont fait ce matin pour justement aller au job.
Aller au boulot.
Hein, parce que si tu vois les visages, lèvres boursouflées, le front explosé en plusieurs endroits. C'est impressionnant. Il faut voir ce qui se met. Et légalement, parce que la seule petite bagarre qu'il y a eu, c'est à la dernière minute, il y a eu un échange de 2-3 coups de poing. Et l'arbitre, quand il a vu ça, il a regardé son chrono. Il a vu qu'il restait 30 secondes dans le temps réglementaire. Il a sifflé à la fin du match. Bon, donc c'est pour te dire, donc tout ça provient du jeu, quoi.
Voilà. Y a tout ce qu'on ne voit pas aussi, Patrick.
Ouais, dans la, tu vois pas, d'accord, mais
sous la mêlée et dans les rucks, je peux te dire que
mais bon.
D'ailleurs, on peut envoyer Laurent dans les mêlées, sous les rucks, pour voir
si passe. Avec une GoPro,
un filtre. Voilà.
Moi, je voulais juste poser une question. Tu parlais tout à l'heure du repêchage. Est-ce que ça vaut la peine d'être repêché? Ou pas, est-ce que finalement le fait de descendre, ça permettrait pas au club de repartir, de reconstruire, de repartir sur quelque chose et d'enchaîner avec peut-être des victoires comme le fait le NL en foot cette année, qui réussit à gagner des matchs. C'est la question qu'on peut se poser.
C'est une bonne question, effectivement, quand tu vois les difficultés rencontrées par le club depuis maintenant plusieurs saisons, et en particulier cette année. J'ai interviewé l'entraîneur de Prades à la fin du match. Donc je lui dis franchement, votre bande de touche, il y avait plus de fraîcheur, ça a fait la différence. Et il m'a dit, depuis le début de la saison, j'ai fait jouer 48 joueurs en équipe première. Et il m'a dit, j'en ai 30 autres qui jouent en réserve. Donc il m'a dit, j'ai à peu près un effectif de 80 joueurs. Bon, mais quand tu vois que Mende, sur les 48 qu'il a fait jouer en équipe première, ben je pense qu'il n'y a même pas 48 seniors qui sont licenciés à Mende. Donc c'est vrai que ça remet tout en perspective. Et donc voilà, c'est ce qui explique. Mais pendant 60 minutes, Mende a fait un match mais vraiment extraordinaire. Ils ont été dominés territorialement quasiment les 80% du match. Et malgré ça, à la 60e, ils sont quand même devant 10-9. Au prix d'une défense, mais vraiment une grosse mêlée, un pack vraiment surpuissant, avec des ballons en touche qui étaient pris parfaitement, une synchronisation entre le talonneur et le deuxième ligne, on aurait dit du tableau noir. Et bon, voilà, donc c'est vrai qu'ils ont proposé un jeu cohérent, et puis surtout une vaillance, des guerriers incroyables. Bon, il faut citer quand même cette troisième ligne, en particulier deux troisièmes lignes, elle. Bon, Vavogny, il a fait une première mi-temps, mais franchement, c'était vraiment beau à voir. Et puis, il y a un jeune, bon, il faut absolument le citer, c'est l'autre troisième ligne, elle. Il s'appelle Lafitte, il a une vingtaine d'années, et c'est vrai que quand on parle avec tous les dirigeants, ben, ils se disent, mais il faut qu'il parte de Mende. Parce que c'est vrai qu'il a un potentiel, mais en plus, lui, physiquement, il est au top. Donc, il aurait même pu faire un deuxième match d'affilée sans problème. 80 minutes, courait de partout. Il fait des plaquages monstrueux. Et d'ailleurs, il y a une action fabuleuse. C'est que le troisième ligne centre, le numéro 8 de Prades, est au bord de touche. Et donc, tout le monde est persuadé qu'il va marquer l'essai parce qu'il lui reste 4-5 mètres à faire. Et donc, il surgit. Donc, Lafitte surgit en biais. Il le chope. En planche, il le projette en touche. Bon, mais tout le monde se demandait comment il a fait pour revenir de là. Et d'ailleurs, il y a une image extraordinaire, c'est que 10 secondes après, le 8 s'est approché justement de Lafitte et il est venu faire une petite tape sur l'épaule en lui disant, franchement, tu as fait une action de classe, tu m'as empêché de marquer, mais je reconnais que tu as vraiment été bon, quoi.
C'est le sport de gentleman.
Ouais, non, mais.
C'est le sport de voyou pratiqué par
le gentleman. On a vu un bon match et bon, c'est dommage. Ah, il y a eu beaucoup de monde dans les tribunes. Patrick, et ça mériterait un meilleur soutien populaire.
Patrick, je dis qu'il y a un super joueur là, qu'il faudrait qu'il parte. Mais non, au contraire, dans l'état actuel où est le club, il vaut mieux qu'ils gardent leurs bons joueurs, il me semble.
Ouais, c'est sûr, mais même les dirigeants, ils le disent.
C'est compliqué après.
Il faudrait qu'il y aille ailleurs.
C'est compliqué de garder un joueur qui est bon, qui a du potentiel et de lui dire, reste à Mende, c'est cool, c'est sympa. Enfin, moi, je vois que. Enfin, je pense que dans tous les clubs, c'est à peu près.
Quand il est jeune, il faut qu'il aille tenter.
Oui, mais si c'est pour aller jouer un fédéral 3 ou 2, ça vaut pas le coup non plus de.
Ouais, je sais pas.
Alors, de le perdre, quoi.
Juste pour conclure sur le rugby, c'est que tu sais qu'aujourd'hui, dans le rugby moderne, c'est ça, la bascule, c'est ça, c'est ces 20 dernières minutes-là. Et on l'a vu avec l'équipe de France, même si ça n'a pas été extraordinaire.
On en reparlera avec l'équipe de France tout à l'heure. Gardez vos arguments.
C'est les remplaçants. Qui ont fait un peu.
Mais c'est ce qu'on a vu au Hand samedi aussi, quoi, à Mende.
Ouais, oui, alors.
C'est fin de match.
Ouais, c'est la fin de match. Alors, si tu veux, au rugby, c'est un peu différent, c'est que c'est vraiment les 20 dernières minutes où tu fais rentrer, où tu fais tourner, notamment tes avant.
Et quand t'as pas assez de joueurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont blessés.
Et voilà, quand t'es en banque qui est un peu ric-rac ou que les mecs doivent en faire 80, forcément, c'est plus compliqué.
Au classement, Mende 9e et dernier avec 12 points, Rive d'Orbe 8e, 22 points, donc il y a 10 points d'écart avec
14
le 8e.
Points, c'est 14. Et 8 points d'écart, je pense.
Il y a 8 points d'écart et Conque à 30 points, 7e.
D'ailleurs, prochain match, dimanche prochain, déplacement à Conque, il reste 4 matchs, ça va être compliqué. Allez.
5 fois 4, 20 points ouais, potentiels.
5, il te faut marquer le point de bonus. Quoi.
Et ouais, il faut marquer le point de bonus.
Sinon, c'est que 4.
Voilà,
il faut qu'ils prennent du plaisir, en tout cas, et qu'ils se régalent jusqu'à la fin de la saison.
Non, mais il faut leur rendre hommage. Franchement, ce qu'il faut, c'est. Franchement, j'ai beaucoup de respect, encore plus en ayant vu ce match, et surtout dans les conditions vraiment au bord de la touche. C'est vraiment impressionnant. Quoi.
Ouais, et on a
d'ailleurs, le match bascule, voir, hein, le match bascule sur un carton blanc. Hein. C'est-à-dire que bon voilà le troisième ligne centre demande Dias prend un carton blanc pour faute répétée auprès de la ligne, donc l'arbitre met un carton blanc, il joue 14 contre 15 pendant 10 minutes et pendant les 10 minutes il prend 10 points alors qu'il menait donc tu passes de 10-9 pour toi à 19-10 contre toi.
Il faut un peu plus de discipline alors.
Voilà.
Il y a de l'indiscipline, des blessés, c'est ce qu'on peut retenir.
C'est un peu tout, ouais. Des fois, tu es un peu oxy, tu fais des fautes bêtes et du coup, ce qui te coûte des cartons jaunes, des pénalités, des cartons blancs.
Allez, basketball, les filles donc ne jouaient pas ce week-end. Les garçons, c'était le All-Star Game en effectif réduit, ont perdu à domicile face à Lunel 53-61. Un choc du bas de tableau qui n'a pas souri à l'équipe mandoise. 5 points d'écart à la pause seulement. Les Mandois prennent le dessus au 4e quart-temps, puis un seul panier marqué dans les 6 dernières minutes. On a l'impression de revivre le scénario du handball. Luc, rapidement.
Et un blessé, du coup, effectif réduit, plus un blessé qui s'est fait une grosse entorse de la cheville sur un pivot. Un des pivots de l'équipe. Ouais, c'est un petit peu, Pascal le disait tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose. Faut peut-être arrêter d'avoir peur de perdre ou d'avoir peur de gagner, je sais pas. Mais c'est peut-être ça aussi qui bloque les joueurs, c'est qu'à un moment donné, ils ont peur de prendre les shoots, ils ont peur de, d'y aller parce que bah parce qu'il y a de la tension. De toute façon, ça sert à rien de se poser des questions. Quoi qu'il arrive, l'année dernière, on n'a pas gagné un match. Donc, dans le pire des cas, ce qui peut nous arriver, c'est d'en perdre un autre. Et dans le meilleur des cas, c'est de gagner. Donc, voilà, c'est dommage parce que ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à 6 points. 6 bah, points, et ouais, 7, points, 8, c'est, ouais, 8 points. C'est pas grand-chose.
C'est pas grand-chose.
Allez, 60 points encaissés.
N'oublie pas qu'on doit aller voir les PTT hein, à domicile.
Oui,
Laurent.
Bien sûr, mais c'est noté. Ouais, ouais.
Allez, football, division d'honneur, mauvaise opération pour l'FL, tenu en échec à Argelès, un but partout. But pour Argelès de Yekrelef à la 48e et pour l'FL, un pénalty de Gourmal à la 54e. Une expulsion anecdotique, Argelès, parce qu'elle s'est déroulée à la 81e, c'était Bagour. Alors, une bonne entame de match avant de céder le ballon, une mi-temps équilibrée, un but sur corner d'Argelès à la 48e minute, on l'a dit, l'égalisation de Gourma. Je ne sais pas si quelqu'un a eu des échos de ce match parmi vous, Patrick.
Oui, ben, tu dis, bon, deux points de perdu, certes, mais bon, quand tu regardes les autres résultats de cette journée... Bah, tu te rends compte que c'est hallucinant parce que les équipes de tête ont énormément de mal. Donc tu peux les
À part Paulhan. Alors Paulhan a fait un match nul, tu l'as dit, 2-2 contre Corbière. Par contre, Narbonne, qui est second, gagne facilement 3-0 contre Poussin. Latte gagne 3-1 contre la Grande Motte. Donc au classement, je le donne vite fait. Paulhan, 46 points, 14 matchs joués. Narbonne, 44 points, 15 matchs. La Grande Motte, 39 points, 15 matchs. Latte, 38 points, 15 matchs. Mende, 37 points, 13 matchs. Alors si tu gagnes tes deux matchs en retard, au mieux tu es troisième, vu que Narbonne a 44 points, que toi tu arrives à 43,
non,
d'où la mauvaise opération.
Non, si tu gagnes tes deux matchs, t'es à 45.
Ouais. Mais non, 3 et 3.
Non, c'est 4
et 4. 4 et 4.
Ah, c'est 4. Ouais. Ah, donc tu passes devant Narbonne.
Ça veut dire qu'il faut gagner la Grande Motte. Aigues-Mortes aussi. La Grande Motte, pardon.
Non, Aigues-Mortes. Et Perpignan. Les deux matchs en retard, c'est contre Perpignan et
Aigues-Mortes.
D'accord. Perpignan-Bavernay, parce qu'il y a plusieurs Perpignan.
Tous les matchs sont difficiles.
Mais Aigues-Mortes. D'où la mauvaise opération, parce que Paulhan fait encore match nul. Alors,
et
c'est
oui,
ça qui est rageant.
C'est ça qui est rageant, parce que ça fait plusieurs fois que justement, Paulhan se fait accrocher. Bon, ils ont jamais perdu, mais quand même, ils ont fait un certain nombre de matchs nuls, je crois 5 de mémoire. Et donc, c'est vrai que là, si tu gagnais, tu
rates les choses, quoi.
Voilà.
Paulhan.
Avec Paulhan.
Paulhan qui a aussi un match en retard.
Il y a un match en retard. Bon. Donc, voilà, mais bon, tous les matchs sont compliqués. Tous les matchs vont être vraiment disputés.
Finalement, l'équipe qui pourra taquiner Paulhan pour l'instant, c'est quand même le Fun de Narbonne, quoi, qui est le mieux placé. Tant que nous, on ne sait pas nos deux matchs ce que ça va donner, pour l'instant, c'est Narbonne qui talonne.
Ceci dit, même si la FL gagne ses deux matchs en retard et que Paulhan fait une mauvaise performance sur son match en retard, ça restera quand même Narbonne, sera quand même à 44 points, ce qui restera quand même un sérieux concurrent.
Oui, aussi, oui.
Non, mais c'est vrai que par exemple, le match aller, bon, moi j'y étais contre cette équipe d'Argelès, bon, 4-0 pour Mende, je me souviens à cette époque-là, Argelès était complètement dans la panade, une saison compliquée qui s'annonce, mais il m'a dit, mais vous inquiétez pas, hein, on se maintiendra sans problème, on va monter en puissance, et puis bon, tu vois les résultats, puisqu'ils ont fait match nul. Quand même, Argelès, il n'y a pas si longtemps, ils ont fait 0-0 à Paulhan. Donc,
non, mais il faut pas qu'ils ramènent trop leur fraise parce que on a le classement des 9 premiers, ils y sont pas.
Ouais, non, mais bon, pour eux, c'est le maintien.
Bon, eux, on s'en moque aussi.
Stricto sensu, c'est bon, je pense qu'ils vont se maintenir quand même sans difficulté. Donc, tous les matchs sont vraiment accrochés. Et, bon, tu fais 1-1, finalement, ça fait un match de plus, un peu comme en Ligue 1. Et voilà, place au gros match. Maintenant, il va y arriver de gros matchs, en particulier dimanche prochain contre Latte. Là, il va y avoir un gros match. Là, en plus, tu as perdu au match aller, donc là, tu vas.
Victoire obligatoire pour
À domicile, ouais.
Pour doubler. Enfin, on est déjà potentiellement devant eux avec deux matchs à moins, mais pour doubler Latte et se rapprocher de. Allez, je vais dire de Narbonne pour commencer, quoi.
Oui, ouais. C'est ça.
Faut un début à tout. Hein. Mm-hmm.
C'est exactement ça, oui, mais on voit un championnat homogène, difficile, on s'y attendait.
Compliqué.
Et peut-être plus compliqué qu'on s'y attendait.
Oui, plus compliqué qu'on s'y attendait, c'est une évidence, on ne pensait pas qu'il y aurait une telle densité. Bon, on savait qu'il y avait quelques équipes, mais à ce point-là, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas.
Certes, on a deux matchs à moins, mais quand on voit le nombre de points...
Il va falloir les gagner aussi, parce que
il faut les gagner, hein. C'est ce qui n'est pas écrit.
Il y a Perpignan-Bavernay,
tu vois que Paulhan...
Non, c'est juste pour rappeler, Perpignan-Bavernay et Aigues-Mortes.
Et quand on voit que Bagnoles-Pont, qui est huitième, c'est C'est-à-dire que le 8e, en général, il regarde plutôt derrière que devant. Et ils ont le même nombre de points que nous, bon, avec deux matchs en plus. Quoi. Mm. Donc, hyper serré le championnat. Quatre on regarde encore en haut. Ouais.
Bah, hyper serré au classement et j'ai l'impression hyper serré aussi au niveau
du jeu.
Du niveau de jeu, ouais.
Ouais. Du jeu, ouais, puisque Paulin est allé faire match nul à Corbière qui est voilà. Dans les derniers. Quoi.
Ouais. Mande qui avait fait match nul aussi à Corbière en début d'année.
Il faut 2015. Le rappeler, donc match ultra important et un joli match le week-end prochain, c'est ça, contre Latte ?
Ouais, voilà, bon, il y aura des plus gros matchs et des plus jolis matchs enfin, au niveau de l'adversité. Mais bon, là, tu commences déjà une série de matchs à domicile où il va falloir que tu fasses le plein.
Donc c'est dimanche à 15h au stade Jean-Jacques Delmas à Mende.
C'est ça.
Allez, division d'honneur régionale, des regrets pour l'équipe 2, match nul contre 7, un but partout, but d'Almeras à la 35e. Et but pour 7 de Ben Mokaden à la 8e. Un match tendu avec deux expulsions alors que Laurent ne jouait pas, il faut le rappeler. Andréo à la 86e et pour 7, Canac à la 75e. Laurent, tu as eu des échos de ce match tendu.
Canac, pas le président de Badarou.
C'était son père.
C'était son père, d'accord.
Philippe Canac qui jouait à 7. Non, j'ai pas eu plus d'échos que ça, mais bon, là c'est pareil que le match de Hand. L'équipe de 7 était deuxième au classement.
Elle est passée troisième.
C'est plutôt un bon résultat.
On savait pas trop à quoi s'attendre avant ce match. Bon, on voit que l'équipe a été un petit peu renforcée puisque Benjamin Almeras faisait partie aussi de la compo. Mais bon, voilà, refaire match nul contre le second, c'est encourageant. Certes, on a besoin de points, mais bon, déjà il n'y a pas défaite, ça remobilisera un peu les troupes. Avant un difficile déplacement à Frontignan ce week-end,
ça le sera leader.
Pas évident non plus.
Frontignan voilà. Le leader.
Frontignan premier à 40 points.
Sans Andréo donc.
Sans Andréo donc il faudra trouver un remplaçant.
Faudra faire monter un mec de la 3.
Voilà. Qui est un défenseur.
Un mec bon, un défenseur rugueux sur l'homme. Voilà.
Qui en veut.
Du Romel. Du Romel. Allez, Mende 10e, 26 points, 14 matchs. 11e, Nîmes, Soleil Levant, 24 points, 11 matchs. Mende à 14 matchs, pardon. Donc Nîmes qui est derrière, on a 3 de moins. Montpellier Atlas à 13 matchs seulement, donc 1 de moins aussi. Enfin, c'est serré, ça va être compliqué, ouais. Mais on y croit. On coupe Guerre-Lozère, Marvejol bat le Buisson de but à 1. On coupe Lozère, pardon. But pour Marvejol, Diallo à la 58e et la 66e. Contre un but de Pascal à la 25e pour le Buisson, doublé de Diallo, Patrick.
Alors, le Buisson n'a pas de chance puisque le tirage au sort c'était le Buisson Marvejol. Mais bien sûr, vu les conditions météorologiques, bon, on ne peut pas jouer au Buisson en ce moment. Donc le match a été inversé et donc il s'est joué à Marvejol. Donc Marvejol qui évolue en PHEA, le Buisson est en première division, donc il y avait deux divisions d'écart. Donc la logique est respectée au niveau du résultat. Mais le match a été très serré puisque c'était le Buisson qui menait 1-0 à la mi-temps et donc il a fallu que Marvejol mate la vitesse supérieure en deuxième période pour se qualifier pour les demi-finales. Et donc il y a Badarou justement qui est déjà qualifié pour les demi-finales et l'ENL. Donc on a déjà trois qualifiés et après le reste c'est pas encore joué. Il y a toujours, justement la réserve de l'AFL
qui doit jouer à la STT.
Qui doit jouer la STT
un
huitième de finale, un jour.
Alors justement, en parlant 2015. De l'ENL, Laurent.
Oui, voilà, donc l'ENL qui a repris le championnat donc un mois et demi après l'avoir stoppé. Donc avec des conditions d'entraînement très difficiles à cause de la neige, pas de match amicaux, rien. Donc ils se déplaçaient à Lande qui était deuxième. Donc c'était un match très important évidemment.
On rappelle que l'ENL était leader.
Et donc ce match à l'ENL a été très compliqué avec un terrain abîmé et puis surtout une ouverture du score de Lande. Donc l'ENL qui, surtout Lande qui croyait avoir gagné le match, mais bon c'était sans compter sur les partenaires de Guillaume Julien qui ont fini en trombe et qui sont revenus grâce à Régis Dossou-Ekbété qui a égalisé à la 89e minute. Le week-end prochain, l'ENL se déplace au Marthe de Veyre et donc toujours en position de leader avec 3 points d'avance sur l'Inde puisque ça n'a pas changé ce week-end. Et pour finir la saison, donc il reste encore 7 matchs à domicile et 5 à l'extérieur. Donc quand on attaque les 12 derniers matchs en position de leader avec 2 matchs de plus à domicile, je pense que l'ENL a toutes les cartes en main pour faire quelque chose de sympa avant la fin de la saison, quoi. C'est surtout à la fin de la saison, c'est là où ça compte.
Oui, bah, d'autant qu'on se rend compte que leur longue trêve, parce qu'ils devaient reprendre la semaine dernière en fait le championnat, mais la journée a été reportée. Ça semble pas trop leur avoir pesé. Alors, je sais que du côté de Saint-Alban, on attend aussi avec impatience un terrain en synthétique. Voilà, qui devrait permettre justement de pouvoir s'entraîner et d'éviter un peu les difficultés liées à la neige dans le secteur.
Ok, très bien. Patrick, un dernier mot.
Ben oui, le NL est bien passé pour retrouver sa place quittée l'année dernière en DH. Bon, c'est une bonne chose. Il faut attendre un peu quand même, 12 matchs c'est long, mais bon, c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'une équipe bien partie et solide sur ses bases.
Allez, on fait une courte pause musicale avant de parler de l'actualité nationale, internationale qui est fournie pour ce lundi.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze. Auka na muyo. Kairi hana. Na halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Dalio wa hanza o wasi hendro wote wa hukumu hata liwazaze tabu waona eshelea zendema zaha Kubali leo tilinde maudu. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home. The one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand.
Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Simbi hoto zamba daima bainu dunia izo kweli. Mahaba kaya bai uhara.
Come on, so I know that you know. Come on, so I know that you know.
Allez, c'est reparti. Laurent, tu raconteras tes histoires de cours d'école après, parce qu'on a bien plus intéressant. On a le ski, les mondiaux de Beaver Creek. Jean-Baptiste Grange remporte le slalom. Le skieur de Valoir obtient un deuxième titre mondial après 4 ans de galère. Alors notre spécialiste ski, Patrick, belle victoire.
Ah oui, ça c'est sûr que c'est une super victoire. Bon, en plus, il y a un Autrichien qui est sorti là en deuxième manche, qui s'appelle Hirscher, qui domine la discipline et même le ski de tout court. Il est vraiment impressionnant, hallucinant. Donc il y avait une forte, forte, forte concurrence. Et malgré ça, après une première manche où Jean-Baptiste Grange était cinquième, bon, mais voilà, les autres devant ont un peu craqué. Et puis lui, il a sorti une belle deuxième manche. De double champion du monde maintenant, c'est fabuleux. Et en plus, quand tu connais son parcours, tu l'as dit, il a connu beaucoup de galères et il est toujours quand même présent. Bon, chapeau à lui.
c'est quand même un drôle de sport, le ski, parce que tu peux être champion du monde dans la saison en ayant fait juste deux courses d'une minute, quoi.
C'est ça.
C'est vraiment particulier, quoi.
Ouais. C'est particulier parce que.
Ça prime pas la longévité, quoi.
Les conditions de neige sont différentes, bien sûr, d'un endroit à l'autre. Les pistes.
Ils refont les pistes.
Les tracés.
Les conditions de neige peuvent être différentes d'un skieur à l'autre, selon comment ça se passe. On a déjà vu des skieurs s'élancer très loin au classement avec une super neige et puis le temps de tourner complètement et quand c'est au leader de passer, bah avoir une neige pourrie et du coup être battu.
D'ailleurs, il avait fini 5e à la première manche, il me semble.
On vient de le dire en fait. Non, mais c'est bien. La France fait de bons championnats du monde en plus.
Penturo, on en parlait la semaine dernière. Penturo, médaille de bronze.
Non, pas un solo, mais il est sorti. Un géant ou un super géant.
En géant, il a eu la médaille de bronze.
Ouais, c'est l'athlète français, le skieur français le plus prometteur. Hein. Donc, espérons qu'il va franchir ce petit cap pour justement après gagner des titres aussi bien au JO qu'au championnat du monde et même en Coupe du monde.
Alors, on sait que c'est décalé au niveau des horaires. Vous le suivez, vous arrivez à le suivre quand même.
Bah oui, c'était à 10h. La deuxième manche, c'était à 10h15 hier soir. Donc, ça va quoi.
Moi, j'ai fait que la première manche, j'ai dit, les Français sont pas au top finalement. Et puis finalement, voilà. Il faut regarder plutôt les deuxièmes matchs, non, dans ce sport.
Ouais, c'est mieux.
Et puis service public, donc c'était sur France 4. Tout le monde pouvait le regarder, c'était assez sympa, quoi.
C'est-à-dire qu'en gros, la première manche, elle sert juste à placer pour la deuxième, donc finalement, effectivement, il vaut mieux regarder la deuxième. En regarder une, autant regarder la deuxième.
Et tu parlais de Penturo, ses parents à Courchevel ont un palace, un 5 étoiles, qui s'appelle Annapurna. Donc tu peux regarder les tarifs sur Internet. Il va falloir que tu économises pour mener ta femme une semaine là-bas.
Patrick, par contre, passe ses vacances toutes les années.
Tu peux aller à l'auberge, c'est un peu moins cher.
Je connais très bien Penturo, donc il m'a fait un prix spécial.
Allez, on va parler de rugby maintenant, avec la défaite française en Irlande, 18 à 11, avec les journaux sportifs qui ne sont pas tendres, avec Philippe Saint-André, l'entraîneur de l'équipe de France. Multiplication des échecs, jeu caricatural, résultat historiquement faible, ça tire à boulet rouge de partout là, Luc.
Il est en voie de doménéquisation ou de...
On en avait parlé la semaine dernière, mais je crois que ça y est.
À juste titre.
Et de lièvremontisation. En gros, c'est le mec que tout le monde voulait, tout le monde attendait... à ce poste-là, comme à cet endroit-là, comme le Messi.
Il est décevant quand même. On peut reconnaître qu'il est décevant quand même.
Il y a énormément de déceptions.
Finalement, on comprend après coup pourquoi Toulon n'a pas tout fait pour le garder quand même il y a quelques années.
Tu as exactement raison.
C'est ça.
Il a été malin.
Parce que Boudjela, ça ne serait pas séparé. Je suis absolument d'accord avec toi.
Il y avait notamment, je crois, c'est dans l'équipe qu'il y avait un édito qui expliquait pourquoi tout le monde voulait la place de PSA. Enfin, c'était très, la différence entre le hand et le rugby. Où finalement le hand a tout gagné alors que le rugby, la France est une des nations majeures, n'a rien gagné depuis plusieurs années. Et notamment de parler de celui qu'on annonce comme le remplaçant de Philippe Saint-André, à savoir Fabien Galthié, et qui a notamment été critiqué parce qu'il a abandonné entre guillemets son équipe pour aller commenter des matchs et aller pour faire l'anniversaire d'un des grands pontes de la Fédé
au Brésil
pendant une journée de championnat.
Non mais c'est vrai que tu le verrais pas
dans aucun sport finalement,
voilà. Sur le match contre l'Irlande, il y a quand même quelque chose de vraiment très marquant, c'est que la seule passe vraiment hors norme que tu as vue du côté de l'équipe de France, c'est ton pilier néo-zélandais, donc qui joue à La Rochelle, qui s'appelle Antonio, qui fait une passe lobée d'une main, il pèse 144 kilos, c'est la seule vraiment véritable passe de génie que tu as vue dans ton équipe pendant tout le match, quand tu vois ton ouvreur Camille Lopez qui fait une saison monstrueuse à Clermont et qui deux trois fois sur des passes sautées, ça finit en touche. Dans un match international, c'est inacceptable.
Alors c'est quoi la solution? Il faut changer le coach ou les joueurs?
Les deux, moi en général. Mais le problème c'est qu'au niveau des joueurs, je crois que tu n'as vraiment pas trop le choix.
Le problème c'est qu'on parle des joueurs. Alors la dernière fois, on se plaignait parce qu'on allait chercher des Néo-Zélandais ou des Sud-Africains. Alors si on doit en plus changer cela, on va chercher qui?
Moi, je pense qu'il faudrait mettre compliqué. Courbis non, à la tête de l'équipe de France.
Mais moi, franchement, je sais pas si vous avez regardé. Moi, j'ai regardé les deux matchs de l'équipe de France. Honnêtement, je me suis fait chier.
Les 20 dernières minutes, mais c'est vrai qu'avant, c'était catastrophique.
On perd, pour nuancer quand même, on perd que d'un essai, quoi. 18-11, c'est juste un essai, quoi.
On perd que d'un essai, mais franchement,
L'Irlande n'avait pas perdu chez eux depuis 3 ou 4 ans.
Mais l'Irlande jeu, c'est pas un gros match.
Le jeu est mauvais, c'est ça le problème. C'est
mais tu peux pas gagner un match international en jouant comme ça, en n'alignant pas deux passes. Moi j'ai pas vu, je me souviens pas avoir vu le French Flair. Enfin voilà, le French Flair, c'est une notion qui est totalement dépassée, fini aujourd'hui. Quand tu vois quand même que ceux qui vont mettre un peu du jus, c'était remplaçant. Et remplaçant, il y avait Vincent Debatti qui a 33 ans.
Il m'a fait halluciner, je n'ai jamais vu jouer aussi bien.
On construit pas l'avenir là-dessus, quoi. On construit pas l'avenir. Moi, je suis désolé, hein, et avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de France, que j'adore depuis que je suis gamin, mais une Coupe du Monde, on va se faire chier, quoi.
Allez, avant de parler de cet énorme match Marseille-Reims, on va faire des pronostics. Allez, c'est le retour des pronostics. Ligue des Champions, 8e de finale, allez. Paris Saint-Germain, Chelsea, ce mardi. On commence par la personne qui s'y connaît le plus, comme ça elle va pouvoir nous aiguiller, Patrick.
3-0 pour Paris. Oh, voilà. Ouais, j'y crois.
Ok, crois. Luc.
Alors, Paris, j'irai pas jusqu'à 3-0, mais j'irai un petit but à 0 pour Paris, ouais.
À Paris aussi,
ouais. Paris aussi.
Ouais, d'accord. Ouais. Bah, alors, du coup, je vais dire entre les deux, je vais dire 2-0 pour Paris, quoi.
Oh là là là.
Ouais.
Oh,
il y croit aussi.
Non, c'est pas qu'il y croit, c'est qu'il sent okay. Le vent tourner.
On a influencé.
Comme je disais en début d'émission, sur les auditeurs qui nous ont pas écoutés, je pense que c'est dans l'adversité que le PSG va se retrouver. Et un match comme ça, Ligue des Champions, si là tu te sors pas les doigts du. Eh ben, c'est pas normal. Et là, je pense qu'ils vont faire un super match. Et donc, je donne 2-0 pour le PSG.
Ce que vous pouvez faire, Luc, qui est un adepte des réseaux sociaux, tu pourrais sortir ton portable et demander à Ludo qui retire son t-shirt comme Zlatan pour voir ses nouveaux tatouages et comme ça tu pourrais le poster sur Facebook.
On va faire ça.
Ouais, en attendant, je vais quand même parier. Alors, ce qui est bien, c'est que je voulais parier Paris, mais vu que Laurent parie Paris et qu'il se trompe toujours, je vais changer. On va dire un petit, allez, on va être complètement fou, un 2-2. Allez, un 2-2. C'est possible, ça, avec Pastor.
Il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que Paris, c'est se survolter sur ces gros matchs comme ça. Alors, autant contre Caen...
Tout ce que tu dis sera retenu Bengal. Contre toi, non, Luc. Attention. Quand il y aura 3-0 pour Chelsea, que je repasserai
Les meilleurs matchs de Paris cette saison, ça a été contre le Barça en Coupe d'Europe. Et voilà. Après,
c'est vrai.
C'est là où les mecs, c'est
des compétiteurs.
C'est des compétiteurs nés.
Enfin, moi, ça m'intéresse parce qu'un 3-0 à l'aller, tu vois quoi au retour.
Non, c'est le coup de poker là. C'est pour la grosse cote pour nos amis auditeurs, qui peuvent aller parier. Après, mais bon.
Tu vois Paris passer alors.
Je vois Paris passer. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Alors que c'est vrai que tout est contre eux. Bon, tu me diras les blessés là de ce week-end. C'est des gars qui impossible pourraient pas être titulaires. Donc c'est pas à part Lucas peut-être.
Lucas.
Voilà. Ouais.
Je pense que Marquinhos.
Peut-être.
Et vous faites quoi de Van der Ville? Il faut le faire jouer.
Donc mais j'y crois parce qu'ils
ont pas le choix maintenant.
Que Chelsea est trop confiant cette fois.
Ouais, c'est pas impossible. Et je pense que David Luiz va aussi vouloir un petit peu.
Ah ben ouais.
Et puis elle revanche l'année dernière aussi.
Vous rappelez que dans l'équipe de Chelsea, il y a Eden Hazard en face.
Oui, mais alors.
Et David Luiz, il court le 100 mètres en 16 secondes où Hazard fait en 11. Quoi.
Oui, mais un bon coup de semelle bien placé, tu sais.
Ah oui, c'est vrai.
Il faut voir. Mais bon, en plus, non, mais tu as raison, pour être tout à fait honnête, ça serait encore un exploit encore plus grandiose que l'année dernière, parce qu'à mon avis, Chelsea est supérieur au Chelsea de l'année dernière.
Ah, et oui, parce qu'ils ont donné David Luiz au PSG depuis. C'est ça.
Ah,
c'est
sûr. Non,
pas que pour ça. Il y a Diego Costa.
Il y a Nemanja Matić qui ne pouvait pas jouer la Coupe d'Europe l'année dernière. Il y a Thibaut Courtois dans les cages et Peter Cech. Je pense qu'il y a une grosse équipe qui est leader de son championnat.
Et puis il y a l'attaquant
Diego Costa.
Ouais,
ce qui peut sauver Paris, c'est qu'il n'y a pas Dembaba cette année, donc il ne pourra pas marquer la dernière seconde.
C'est ça. Et ce que disait Laurent Blanc quand il a dit que Mourinho est un génie, c'est que Mourinho s'est quand même fait éliminer par une équipe de Détroit.
Comme bien ça.
Voilà, en Coupe d'Angleterre, ce qui fait qu'ils ont eu une semaine tranquille pour préparer leur match contre Paris.
Tu soupçonnes que ça soit fait exprès?
Tu vois, ça fait plaisir parce que tu dis que Bielsa est un génie aussi, puisqu'il a fait exprès de perdre un Grenoble.
Ouais, je pense qu'ils ont clairement balancé la Coupe de France, Marseille. Ouais.
D'ailleurs, Marseille qui a fait exprès de se prendre un but à la 88e.
Non, il n'y aura pas jusque-là.
Magnifique match contre Reims, Marseille-Reims.
Quoique, pour rester un peu derrière Lyon, peut-être que Bielsa a fait rentrer Aloé exprès pour qu'il soit lobé sur le centre.
C'est ça.
Pour que N'Gog puisse marquer de la tête.
Et bon, d'ailleurs, voilà. Puisqu'on parle des choix de Bielsa.
Ah ben là, tu peux les critiquer, largement.
À signaler que visiblement, selon tous les observateurs, Doria a été le meilleur joueur de son match de championnat au Brésil et qu'il a fait un match énorme.
Ouais, mais contre une équipe assez faible, puisqu'ils ont gagné 5-0.
C'est vrai que Reims est une équipe ô combien performante en ce moment.
On dit pas grand chose sur cette journée de Ligue 1, à part Bordeaux qui gagne Saint-Etienne, c'est la seule.
Mais si tu veux finir sur l'OM, le drame de Marseille, c'est que quand tu vois Reims, ils font des changements, ils font rentrer Moukanjou, bon, quand même, qui est international camerounais, qui a fait la CAN, ils font rentrer N'Gog, qui a été un des meilleurs jeunes du PSG qui jouait à Liverpool. Et puis toi, tu fais rentrer Tuiloma, néo-zélandais, qui s'est trompé de jeu, qui s'est mis au football au lieu du rugby.
Et puis,
le cricket. Et puis, Aloé, comme dit, qui est meilleur que Doria. Et bon, voilà, il fait la passe qui a expulsé Fanny contre Guingamp. Bon, tu mets les doigts à zéro, heureusement.
Voilà,
et puis là, il est lobé, alors qu'il le fait exprès, rentrer pour marquer N'Gog. Parce que N'Gog lui-même vient de rentrer, quoi.
Tu fais jouer des joueurs de CFA2.
C'est grave.
Arrêtez, là, vous êtes vraiment des supporters marseillais.
Quand tu es des internationaux espoirs, et notamment un international espoir brésilien, tu le fais jouer en CFA2.
C'est grave.
Patrick, c'est la combien de journées là?
C'est la, je sais pas, 24e.
Si on t'avait dit la 24e, Marseille est second derrière Lyon à 2 points.
On est d'accord.
Mais, il dirait quoi, on n'est pas 8e?
Mais tu ne peux pas jouer un rôle dans ce championnat en faisant rentrer Boutoba, 17 ans, Tuiloma, néo-zélandais,
Aloé. Qu'est-ce que t'as contre les néo-zélandais?
Que fait Lyon quand ils font rentrer des fakirs qu'on connaissait pas?
Mais tu peux pas
comparer. On le connaissait pas.
Ils les ont formés, les mecs de Lyon.
Fakir, ça fait 3 ans.
Il est espoir. Il est dans son espoir, quand même.
Il est sur l'espoir.
On le connaissait pas. Là, tu fais venir des mecs qui. Ah, mais t'as vu le Bandoum en train de prier, quoi.
Non, mais t'as vu le Bandoum de Lyon? Tu avais Malbranque, tu avais Gourcuff. Voilà. Oui, nous on a Batshuayi, il a pas fait rentrer. Tu avais Alessandrini, il a pas fait rentrer. Puis fait rentrer Tuiloma et Aloé. Bon, ben
et
voilà.
Et t'as des Tovins qui traînent leur misère depuis.
C'est dommage.
Depuis 2 mois.
C'est dommage parce que quand tu vois le match d'Ayou, il est rentré la veille. Il a perdu la finale au penalty. Bon, il est catastrophé, il est démoralisé.
Les deux frères, parce que le petit Jordan,
c'est magnifique.
Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas jouer au Campos plus que ça, quoi?
Ouais, il va le faire jouer, je pense. Après, il est juste d'arriver, mais
tu as raison. Quand tu vois au Campos qui s'entraîne pendant 60 minutes au bord du terrain, qui fait ramasseur de balles, quoi.
Tu peux pas dire. En plus, tu peux pas dire qu'Ocampos il a pas le niveau physique. Il a joué.
Mais là, il va le faire jouer parce que c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui a demandé. Je veux Ocampos.
Mais quand on lui a donné,
Ludo m'a dit qu'Ocampos avait pas fait la CAN, donc il peut jouer.
Non, c'est vrai. Avec Argentine, c'est normal qu'il ait pas fait la CAN.
Il a refusé. Non, c'est pas beau.
C'est comme Ramayad qui a dit on a fait un beau championnat d'Europe contre l'Uruguay.
C'est un peu le même score. Paris Caen 2-2, on mène 2-0, on revient 2-2.
Tu reverras plus des matchs comme ça.
Paris, c'est surréaliste.
5 blessés, tu reverras plus.
5 blessés, alors on peut critiquer Laurent Blanc d'avoir fait rentrer. Alors il a 2 blessés.
Il est obligé.
Mathudi,
t'as un de tes meilleurs joueurs.
C'est vrai.
On parle de Bielsa, mais on peut critiquer Blanc.
Mathudi, t'as un de tes meilleurs joueurs qui a pris un coup au genou. Tu sais que t'as un match de Coupe d'Europe. Tu mènes 2-0. Tu dis, bon, je vais le faire rentrer, mais c'est à 5 quarts d'heure. Tu peux pas te douter que tu vas avoir 2 mecs à Aurier qui se pètent 2 minutes plus tard. Et
Lucas.
Aurier, un très joli plat du pied d'ailleurs. C'est quand il s'est blessé, je sais pas si t'as vu.
Ah, t'es magnifique.
Il
a fait un super match.
Il avait vu sa femme dans les tribunes.
Ah ouais, je sais rien ce qu'il a vu, mais.
Et Aurier, il passe devant Van der Ville, il passe devant presque Marquinhos qui peut jouer arrière droit. Finalement, sans faire de bruit, il est là.
Non, mais il est bon.
C'est bon, mais bon.
Qu'est-ce qu'il y a, Laurent?
Non, moi, vous tirez à boulet rouge sur Laurent Blanc, c'est facile, je trouve, parce que là, quand c'est des blessures, des pépins physiques, musculaires, c'est plutôt les préparateurs physiques.
Oui, troisième avec l'effectif qu'il a, on peut tirer à boulet rouge dessus.
Oui, un petit peu aussi, il fait des mauvais choix, moi, je suis d'accord. Sur les blessures, là, bon, c'est. Voilà, t'as 5 blessures musculaires, c'est le préparateur physique.
Non, mais la semaine prochaine, après le 3-0 contre Chelsea, on lance un soir.
Et puis c'est extra. Enfin, ouais, et puis voilà, puis il y a la façon, c'est-à-dire que quand ce coup franc à la dernière seconde, là, que Ferré veut tirer, et Basile lui dit non, c'est bon, je le sens, et qu'il le met plein de lucarne au
Basilou, mon Basilou.
Ouais, mais c'est vrai que pour le coup là, en plus ils ont fait un bon match. Franchement, en plus là, Paris, des fois ils font des matchs un peu pourris là où ils sont à l'arrache et ils gagnent juste en faisant le minimum. Là, ils ont fait plutôt un bon match.
Laurent,
t'as pas regardé, mais
le but de Zlatan aurait pu être refusé.
Il aurait
dû être refusé.
Exactement.
Allez, pas,
il lève son pied à 1m90 de haut.
Bah, rien que pour ça, moi je l'accepte, parce que vas-y, lève ton pied à 1m90 de haut, tu vas comprendre.
Laurent, il y arrive, hein,
ah ouais, moi,
tu sens te blesser.
Tu l'as pas
ah
vu.
Oui, non, voilà, c'était pas mal.
Tu l'as pas vu quand ils s'entraînaient pour le combat de karaté.
Parce que là, pour moi, le coup, Zlatan, il s'est pas claqué là sur ce coup-là.
Non.
Allez, 25 000 fans à la Méno, 25 000 spectateurs pour un match de National, donc la 3ème division. C'est le record établi vendredi au stade de la Méno de Strasbourg pour le derby Strasbourg-Colmar. C'est énorme, Patrick.
C'est énorme, c'est un record pour une troisième division. Strasbourg, terre de football depuis toujours, et puis une gabegie des dirigeants et des politiques qui ont conduit ce club à la faillite. Et donc, ils essayent de ressurgir un petit peu. L'année dernière, ils étaient déjà nationales, ils auraient dû descendre, ils ont été repêchés à cause de ces affaires de Luzenac, entre autres. Et puis cette année, ils sont là pour essayer de monter en Ligue 2 et retrouver le monde professionnel. C'est vrai que ça serait quand même intéressant quand tu vois 25 000 personnes. Bon, c'était un derby contre Colmar, mais bon, il n'y a pas beaucoup de supporters visiteurs. Donc j'espère que Strasbourg va retrouver le monde professionnel. Il le mérite, la région le mérite.
Ouais, c'est énorme, Luc.
Oui, et dans le même temps, il y avait aussi le derby de Paris entre le premier et
il y a
le,
monde, hein.
Le Paris FC et
le Red Star.
Et donc c'est le Red Star qui s'est imposé 3-1.
2-1.
2-1. Ouais. Et c'est bien parce que ça peut faire un deuxième. Et c'est peut-être ce qui est bien, c'est un deuxième club de Paris dans le monde professionnel.
Ah oui, alors à ce moment-là, il fallait qu'il laisse gagner le Paris FC qui est premier.
Le Red Star est soutenu par François Hollande. Il était au stade.
Ça risque de capoter.
Le Red Star
qui est quand
même. Ça va quand pour
le Red Star qui est quand même un club historique du championnat de France aussi, un des premiers clubs professionnels.
Il y a eu plein de reportages sur le Red Star dernièrement, j'ai pas compris pourquoi.
Ouais, c'est un club historique, le Red Star qui essaye de retrouver sa gloire passée, mais c'est un des premiers clubs professionnels à l'époque où le PSG n'existait pas, puisque le PSG n'est né qu'en dans les années 70.
Ouais, c'est
bien parce que
la banlieue Paris, populaire,
Saint-Ouen, et Paris est quasiment la seule capitale européenne ou la seule grande ville européenne qui est qu'un seul club en première division. À peu près tous les autres ont deux clubs, ouais. Barcelone, Madrid, Londres, Rome. Milan,
Munich, en France,
en
France, il n'y a pas une ville qui a deux clubs en première division.
Si, non, il y avait Ajaccio à une époque qui avait un club en D1, un club en D2. Oh, non,
ah oui, mais D1, D2, ouais, je te parle en première
division.
Ils
n'avaient pas le droit de monter, je crois, en plus.
Oui, ils n'avaient pas le stade.
Il y a des règlements.
L'équipe du Gazélec qui est bien partie pour remonter.
Et Bastia qui s'en sort bien, là, qui remonte bien.
Alors, ceci dit, si le Gazélec monte en Ligue 1, on m'expliquera comment le Gazélec, avec son stade qui est toujours aussi
peut monter dans l'autre terrain d'Ajaccio.
Oui, qui est à côté d'un site Céveso susceptible d'exploser à tout moment. Et que Luznac peut toujours pas monter.
Donc, non, ouais, allez, on se dépêche.
Une dérogation.
Que Laurent va se faire engueuler, va être en retard pour le boulot. Un mot de basket, on finit. Rudy Gobert, Luc, le Rising Star
Est-ce
Challenge.
Est-ce que tu as vu le code qu'il a mis dans le match?
Le match des rookies, le
un
pivot
du cost, il y a un cost du cost, un contre, un dunk stratosphérique. Hein.
18 points, 11 rebonds.
On n'a pas besoin de Noah.
11 rebonds, 3 contre.
On n'a pas besoin de Noah.
Super joueur.
Tiens, raison, Luc, on n'a pas besoin de Noah.
Rudy Gobert, c'est un gamin de 21 ou 22 ans. Voilà.
Rudy Gobert Song, c'est ça, s'il jouait à
Metz. Ça va, très ouais. Bon, ça.
Génial.
Et d'ailleurs, pas Larqué, mais Thierry Roland disait à propos de Song, personne n'aime l'avoir sur son dos à part sa femme. Il disait ça en commentaire de match de foot. Voilà, Thierry Roland, si nous écoute.
Et donc, pour revenir à Rudy Gobert, ouais, c'est un super joueur, c'est un jeune, c'est plein d'avenir. C'était le seul Français qui était sur le week-end du All-Star Game en plus.
Il aurait pu être MVP. Moi, j'ai vu le match en direct.
C'est un scandale qu'il ait pas été.
C'est un scandale.
C'est qui?
Un Américain.
Non, c'est un Européen.
C'est le Canadien.
Un Européen.
Le premier de la draft de Cleveland qui a été échangé.
C'était États-Unis, reste du monde. Voilà. Mais c'est bien, ça prouve qu'il y a de la relève. Et ça prouve qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin de Joachim Noah. Après, c'est un grand débat. Mais voilà, Rudy Gobert, pour la relève de l'équipe de France, c'est très très bien. Très très bonne nouvelle.
Quel âge?
Alors, je crois qu'il a 22 ans.
Ouais, 22.
Dans l'équipe de deuxième année. Donc,
si à 22 ans, t'as pas percé encore, c'est tard.
Il perce fort.
Il joue au Denver, Utah Jazz.
Ah ouais.
Ouais, c'est.
Chez les Mormons là-bas.
Chez les Mormons, non, il fait une super saison, il est titulaire. Et bah d'ailleurs, il est au Rising Star Challenge, donc ça prouve qu'il a percé. Joachim Noah, 30 ans, mine de rien.
Et ouais. Ah, le vieux. Allez, les gars, merci beaucoup. J'ai hâte de monter ces pronostics de Paris. Là, vous m'avez tous régalé avec, c'est sûr, Paris énorme. Paris va gagner. On va suivre ça attentivement. Donc, si vous entendez cette émission mercredi, alors on n'était pas sous, c'est juste que c'est une rediffusion et qu'on était en direct ce lundi à 12h30. Merci, les gars. Ciao à tout le monde et,
Salut. Et
bonne semaine de sport.
Ciao.
Leslie John au couloir numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du Tadji Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde, au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.